Vous êtes toujours à l'écoute des RFI, les 15h à Paris, 13h en temps universel. Et c'est la dernière partie de RFI Midi consacrée à l'actualité du continent américain. On revient dans notre grande interview. On revient dans un instant sur notre grande interview sur la situation sécuritaire en Haïti. Ablajou Naïdi reçoit aujourd'hui Diego Darin, consultant pour l'International Crisis Group. Nous reviendrons aussi sur l'influence des lobbies pro-Israël à l'intérieur du Parti démocrate américain, alors que Washington a décidé de vendre pour 20 milliards de dollars d'armes à l'État hébreu. Et puis comme d'habitude, le journal des Outre-mer avec Benoît Ferrand. Bonjour Benoît. Est-ce que vous nous entendez ?
Mais oui.
Voilà. Est-ce que les effets sont plutôt limités en Guadeloupe de la tempête tropicale Ernesto ?
Oui, fort heureusement, des trombes d'eau et quelques inondations, mais une situation qui est toujours restée sous contrôle. Nous entendrons tout à l'heure le secrétaire général de la préfecture de la Guadeloupe.
Merci Benoît, on vous retrouve tout à l'heure. Mais d'abord, le journal avec Stéphane Genest. Bonjour Stéphane.
Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous.
Et de nouvelles frappes israéliennes sur la bande de Gaza ce mercredi.
Des frappes à la veille de nouvelles discussions sur un cessez-le-feu réclamé avec force par les États-Unis qui espèrent un accord de trêve pour dissuader l'Iran de lancer une attaque contre Israël. Israël qui accuse de longue date le Hamas d'utiliser des civils comme boucliers humains, notamment dans des établissements scolaires et hospitaliers. Mais cette fois, à l'inverse, des civils palestiniens seraient utilisés par Israël. C'est ce qui résulte d'une enquête. Enquête qui repose sur les témoignages de soldats et d'officiers israéliens qui ont servi à Gaza depuis le 7 octobre dernier. Enquête qui fait la une du quotidien de gauche israélien Haaretz, correspondance de Michel Paul à Jérusalem.
L'armée israélienne, indique Haaretz, utilise des civils gazaouis en tant que boucliers humains pour explorer les tunnels du Hamas dans l'enclave palestinienne. Toujours selon cette enquête, selon plusieurs sources, cela se passe dans l'ensemble de la bande de Gaza. Les faits seraient connus des officiers supérieurs, y compris de l'état-major général de l'armée israélienne. Autre précision donnée par le journal, les civils utilisés comme boucliers humains ont été détenus de manière arbitraire, sans qu'aucune action hostile à l'égard d'Israël ne leur soit reprochée. Selon des témoignages, les militaires israéliens auraient affirmé à ces civils que leur propre survie est plus importante que celle de ces boucliers humains. Dans au moins un cas relevé par Haaretz, un de ces civils aurait été abattu par les hommes du Hamas lors de l'exploration d'une structure souterraine. Une pratique qui semble être de plus en plus courante. Le mois dernier, des clips vidéo avaient montré des Palestiniens attachés sur le capot de véhicules israéliens lors de patrouilles dans des villes palestiniennes de Cisjordanie. Une enquête avait alors été ouverte. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Autre conflit entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine qui revendique de nouvelles avancées majeures sur le territoire russe. Kiev affirme avoir pris 74 localités dans la région de Koursk une semaine après avoir déclenché une offensive surprise destinée à pousser Moscou à accepter une paix juste. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'est exprimé à la mi-journée. Il affirme que l'armée ukrainienne continue de progresser sur le sol russe.
En Birmanie, de nouvelles craintes de nettoyage ethnique envers la population Rohingya, une minorité musulmane du pays.
Alerte issue d'un rapport de l'ONG Human Rights Watch, rapport publié hier soir sur des exactions à la fois de la junte birmane mais aussi de l'armée d'Arakan, groupe ethnique armé bouddhiste en guerre contre les militaires birmans Khmeruz.
C'était en avril dernier. L'armée birmane lançait des attaques incendiaires à l'ouest du pays, dans des communes comptant plus de 200 000 Rohingyas, souligne Human Rights Watch. Déjà en 2018, les exactions de la junte contre la minorité musulmane avaient été qualifiées de génocide par l'ONU. Mais les forces birmanes ne sont pas les seules à persécuter les Rohingyas. L'armée d'Arakan, groupe ethnique bouddhiste en lutte contre le régime militaire, est elle aussi accusée d'attaques caractérisées. En avril, elle a brûlé plus de 40 villages dans la même zone que la junte. Des représailles contre les Rohingyas, explique Brioni Lo, directrice adjointe de la division Asie à Human Rights Watch.
Nous avons parlé à plusieurs témoins Rohingyas qui nous ont dit que les abus commis par l'armée d'Arakan contre les Rohingyas sont à cause de cette participation des Rohingyas dans la lutte contre l'armée d'Arakan.
Une participation forcée. Pour lutter contre l'armée d'Arakan, la junte a enrôlé illégalement des centaines de Rohingyas dans l'état de Rakhine, dans l'ouest de la Birmanie, ou au Bangladesh voisin, qui accueille plus de 750 000 réfugiés de cette minorité depuis 2016. Cette année, pas moins de 70 000 Rohingyas ont fui les attaques vers le sud du pays.
Camille ruise l'inquiétude de l'Agence de santé de l'Union africaine. Elle a décrété hier une urgence de santé publique face à la multiplication du Mpox, plus connu sous le nom de la variole du singe, virus qui sévit principalement en Afrique. Une souche particulièrement virulente du virus y circule et très rapidement. Du mieux en Grèce, sur le front des incendies dans la banlieue d'Athènes, le feu qui recule autour de la capitale, flammes qui ont tué, je vous le rappelle, une femme, qui ont causé d'importants dégâts entraînant le déplacement de milliers de personnes, les pompiers qui restent malgré tout mobilisés, accompagnés de collègues européens. Ils sont arrivés sur place hier avec du matériel pour faire face à ce gigantesque brasier.
L'actualité nous emmène au Japon puisque le Premier ministre japonais Fumio Kishida va quitter le pouvoir.
Il ne se représentera pas à une élection interne que son parti libéral-démocrate doit organiser à la rentrée pour désigner son leader et par extension celui ou celle qui va assurer les fonctions de chef du gouvernement étant donné la majorité de son parti au Parlement. En poste depuis octobre 2021, Fumio Kishida est au plus bas dans les sondages d'opinion à la suite de scandales politico-financiers qui touchent son parti et une hausse de l'inflation très mal vécue par la majorité des Japonais. Explication à Tokyo, signé Frédéric Charles.
La semaine dernière, Fumio Kishida avait renoncé à un voyage en Asie centrale après la mise en garde contre un méga-séisme qui détruirait une partie du Japon. En fait, le Premier ministre a renoncé à ce déplacement pour des raisons politiques. Sa seule préoccupation était de se maintenir au pouvoir. La direction de son parti, qui monopolise la vie politique japonaise, le juge trop impopulaire. Un parti secoué par un scandale de caisse noire, de collecte de fonds, sans être déclaré. Scott Foster, un analyste qui publie sur Smart Karma, déclare « La décision de Kishida est une surprise qui change la dynamique de la campagne pour la présidence du Parti conservateur. Plusieurs candidats ont désormais de meilleures chances de devenir Premier ministre. Le parti est à la recherche d'un monsieur propre. » Quant aux mesures du gouvernement pour aider les ménages à faire face à la hausse de l'inflation, elles ne convainquent plus les Japonais. Pas même la restitution aux contribuables de l'équivalent de 300 euros par personne. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Retour en France à l'aéroport de Roissy puisque c'est là que se regroupent les touristes venus à Paris pour les Jeux.
Et oui Florence, puisqu'ils quittent la France après plus de deux semaines de sport et de fêtes, un départ du pays avec tout de même un petit pincement au cœur comme l'a constaté Pierre-Olivier reportage.
Une dernière danse au milieu de l'aérogare en musique comme pour prolonger un peu la magie des Jeux. Ce touriste mexicain venu soutenir son équipe olympique est manifestement ravi de son séjour.
C'était vraiment très très sympa. L'ambiance était incroyable avec tous ces spectateurs du monde entier. La cérémonie d'ouverture était la plus belle que je n'ai jamais vue. Tout était très bien organisé. L'accès au stade, les transports, parfait. Je me suis senti comme à la maison.
Un peu partout dans l'aéroport, on distingue des bobs, des t-shirts, des casquettes aux couleurs des JO. L'ambiance dans les allées a encore un je ne sais quoi de festif.
J'ai vécu à Paris pendant 3 ans, il y a beaucoup d'années de ça. Et là, ça fait 32 ans que j'habite en Australie. Donc ce Paris aussi fervent, aussi enthousiaste, je ne l'avais pas vu depuis longtemps.
À quelques mètres, cette famille, après avoir assisté aux Jeux, a choisi une destination de circonstance pour les vacances.
Et là, on part en Grèce. Voilà, on part au berceau de l'Olympisme. On arrive à Athènes. Donc, depuis la cérémonie d'ouverture, on est à fond. Et là, on a un petit moment de gueule de bois après les super fêtes.
À Roissy, ce sont finalement les annonces d'embarquement qui viennent mettre un point final à ces Jeux Olympiques comme hors du temps.
Le reportage de Pierre-Olivier pour RFI.
Et c'était le journal de Stéphane Genest. Merci Stéphane. Il est 9h09 à Port-au-Prince, 15h09 à Paris.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
En Haïti, voilà 2 mois que le nouveau gouvernement a été officiellement nommé avec à sa tête Gary Conille, une équipe chargée de rétablir la sécurité et la stabilité dans le pays assiégé par les gangs. Pourtant, chaque jour, ces gangs semblent devenir plus puissants. Ils contrôlent toujours une majeure partie de l'agglomération de Port-au-Prince et cela malgré l'arrivée sur place de 600 policiers kényans dans le cadre d'une mission internationale de soutien à la sécurité. Abla Junaidi fait le point sur ce vaste chantier sécuritaire du gouvernement Gary Conille. Avec Diego Darin, il est consultant pour l'International Crisis Group.
Bonjour Diego Darin.
Bonjour.
Voilà près de 2 mois que la mission multinationale d'appui à la sécurité a commencé à se déployer en Haïti. Pour quels résultats opérationnels jusqu'à maintenant ? Est-ce qu'on en voit les effets ?
Le déploiement a certes commencé, mais comme l'a dit le commandant de la force kényan, le général Otunge, Jusqu'ici, ils ne considèrent que la mission est que dans un état de pré-déploiement. La mission devrait compter, quand elle sera à son plein, 2500 personnes. Mais jusqu'ici, il n'y a que deux contingents kényans qui ont été déployés, l'un à la fin juin et un à la mi-juillet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a que 400 personnes de la mission sur le terrain. Ce qui est moins du 20% du personnel qui est attendu. Et donc, il y a des limitations pour vraiment mettre en œuvre la stratégie et le plan d'intervention pour essayer de démanteler les gangs. Jusqu'ici, on n'a pas encore vu d'action vraiment offensive et d'incursion des forces de sécurité avec le personnel de la mission dans les fiefs des gangs. Pour autant, on a déjà vu quelques patrouilles conjointes entre la police et le personnel de la mission qui se sont aventurées pour la première fois il y a quelques semaines et depuis ils font des patrouilles plus ou moins récurrentes, par exemple sur le boulevard Jean-Jacques-Dessalines qui communique plus ou moins la partie du Champ de Mars, c'est-à-dire la partie où il y a plusieurs institutions de centre du pouvoir dans le centre-ville de Port-au-Prince et le principal port de containers. Jusqu'ici, cette zone avait été vraiment abandonnée par les forces de l'ordre depuis le début des attaques concertées des gangs contre des édifications étatiques et des infrastructures critiques en fin février. Mais, par exemple, dans cette zone-là, il y a l'hôpital général, ce qu'on appelle l'hôpital général, c'est le plus grand hôpital public de la capitale, qui avait été repris, les forces de l'ordre avaient repris le contrôle de cet hôpital. Mais il y a eu un incident qui montre la fragilité de ces victoires. Le Premier ministre Gary Conney s'était rendu avec des journalistes pour faire une interview là-bas, pour voir les dégâts que les gangs avaient commis dans cet hôpital. Mais en sortant de l'hôpital, il y a des tirs qui ont retenti. Il y a eu un moment de chaos avec des gangs qui vraisemblablement étaient en train de s'affronter avec les forces de l'ordre. Ça montre en quelle mesure ce n'est pas vraiment des victoires vraiment acquises. Ces zones ne sont pas encore sous le contrôle total des forces de l'ordre.
Ouais, et Gary Conney, justement, avait à cette occasion jugé trop lent le déploiement de cette force. Quels sont les obstacles, finalement, qui s'opposent à un déploiement rapide ?
Écoutez, le principal obstacle en ce moment pour réussir à avoir un déploiement plus rapide, c'est le manque de fonds. Le leadership de la mission, c'est-à-dire le Kenya, avait estimé le coût annuel pour déployer et maintenir le personnel sur place à 600 millions de dollars. Jusqu'ici, le principal contributeur, c'est les États-Unis, qui ont promis 360 millions plus ou moins en aide logistique pour construire la base d'opération et fournir le matériel nécessaire pour commencer les opérations sur le terrain. Il y a aussi un fonds qui est géré par l'ONU, bien que ce soit une mission non onusienne, où il y a des contributions volontaires de plusieurs pays, mais il n'y a que 21 millions sur ce fonds. Donc il y a un manque de fonds assez clair qui empêche de continuer le déploiement, parce qu'il y a non seulement du personnel de sécurité kényan qui doit être déployé, mais aussi un peu moins d'une dizaine de pays qui ont exprimé leur volonté de participer avec du personnel pour cette mission.
Est-ce que du fait de ce déploiement-là et de l'enjeu sécuritaire qui est la priorité, est-ce que la PNH bénéficie d'un soutien accru depuis la mise en place de l'équipe de Gary Conney ?
L'une des premières mesures qu'a pris le Premier ministre lorsqu'il a été installé, ça a été d'écouter toutes ces demandes pour changer le leadership de la PNH. Il a nommé un nouveau directeur général de la police. Aussi, la police bénéficie de livraisons de nouveaux matériels dans le cadre de l'aide internationale pour les opérations conjointes entre la police locale et la police d'autres pays qui viennent soutenir ces efforts. Par exemple, un peu plus de véhicules blindés pour mener leurs opérations. Ils commencent à avoir un peu plus d'armes et de munitions et d'équipements pour mener leur opération. Mais ce que disent des policiers sur le terrain, c'est qu'ils ont besoin de davantage de soutien pour vraiment arriver à mener à bien leurs opérations dans des terrains qui sont très complexes, avec des gangs qui contrôlent au millimètre près certaines zones, qui les connaissent parfaitement, ou des zones aussi où il est très difficile de faire la différence entre des civils et des membres de gangs. Donc le plus préparé en termes de stratégie et aussi en termes d'équipement, ce sera le mieux pour mener à bien des opérations qui seront très très compliquées.
On parle de plus en plus ces derniers temps de l'armée. Il y a eu des nominations récentes, des appels à recrutement également. Est-ce qu'on va vers son rétablissement en Haïti? On peut peut-être rappeler pourquoi. Est-ce que c'est une question un peu sensible en Haïti?
Bien sûr, après la chute de la dictature, il y a eu plusieurs régimes militaires qui se sont succédés. Dans les années 90 précisément, il y a eu un coup d'État contre le premier président démocratiquement élu après la chute de la dictature, contre Jean-Bertrand Aristide. Et l'armée était considérée comme un élément déstabilisateur en termes politiques. Et donc, dans plus ou moins la moitié des années 90, elle a été démantelée. Elle a été remplacée par la police qui a été créée pour devenir la seule force de l'ordre qui pouvait opérer dans le pays. Depuis, il y avait une réticence du point de vue de certains acteurs internationaux pour qu'il y ait une reconstitution de l'armée, notamment des États-Unis. Maintenant, on voit qu'il y a un changement d'attitude, peut-être une volonté de contribuer à un processus de rétablissement des forces armées. Ils ont, par exemple, participé à la protection de l'aéroport depuis plusieurs mois après le début de ces attaques concertées dans la capitale. Mais il y a un besoin vraiment de plus d'entraînement pour les soldats et de plus d'équipement aussi.
Voilà, c'était Diego Darine avec Abla Junaidi.
Le journal d'Haïti et les Amériques sur RFI.
Le conflit à Gaza occupe une place significative dans la course à la présidentielle aux États-Unis. C'est dans moins de 3 mois. Le président Joe Biden presse l'allié israélien de trouver un accord de cessez-le-feu avec le Hamas. Mais en parallèle, les États-Unis ont approuvé hier la vente de 20 milliards de dollars d'armement à l'État hébreu. Et qui dit élection présidentielle aux États-Unis dit aussi des représentants. La Chambre des représentants est renouvelée tous les 2 ans. Elle compose avec le Sénat ce qu'on appelle le Congrès. Mathis Limano, bonjour.
Bonjour Florence.
Et comme pour la présidentielle, eh bien, il y a des primaires. Celles des démocrates sont particulièrement perturbées cette année, perturbées par un lobby pro-Israël, l'un des plus puissants aux États-Unis.
Oui, si ce n'est le plus puissant, si on ne compte pas la NRA, le lobby pro-armes. On parle ici de l'AIPAC, fondé en 1963, un lobby pro-Israël proche du Likoud, le parti de droite de Benjamin Netanyahou. L'AIPAC a pignon sur rue à Washington, où il est très actif auprès des responsables politiques. Il s'assure notamment de la continuité de l'aide financière et militaire envoyée à Israël et plaide aussi pour le veto des États-Unis contre les résolutions de l'ONU condamnant les actions israéliennes. Mais l'AIPAC a surtout un travail d'influence sur les élections. Qu'il soit démocrate ou républicain, le candidat pro-Israël sera toujours soutenu par l'AIPAC. Rien d'anormal au pays des lobbies.
Alors pourquoi l'AIPAC fait tant parler de lui en ce moment, en pleine primaire démocrate des élections des représentants?
Eh bien parce qu'il gagne, en tout cas les candidats que le lobby soutient. Sur X, anciennement Twitter, l'AIPAC se félicite que 100% des candidats démocrates pro-Israël qui l'a soutenu l'ont emporté sur leurs adversaires. Un soutien qui a un coût, 24 millions de dollars depuis le début de l'année. De l'argent mis en priorité face à des candidats du Squad. Le Squad, c'est cette poignée de représentants progressistes qui critiquent ouvertement la politique de Benjamin Netanyahou et qui militent pour un cessez-le-feu à Gaza contre un soutien financier et militaire à Israël. C'est donc une bataille à coups de gros sous que leur livre l'AIPAC. Premier fait d'armes, la défaite de Jamal Bowman lors des primaires démocrates de New York à la fin du mois de juin. Le lobby pro-Israël a soutenu son adversaire à hauteur de 15 millions de dollars. La semaine dernière, c'était au tour de Cori Bush dans le Missouri. Elle est défaite face à Wesley Bell et aux 8 millions de dollars injectés par l'AIPAC. Sur les 9 représentants du squad qui siègent à la Chambre, 2 sont donc déjà éliminés de la course à leur réélection. Les progressistes tirent la sonnette d'alarme face à la puissance de l'AIPAC et son argent illimité, des dons faits par de richissimes conservateurs pro-Israël souhaitant influencer les primaires démocrates.
Mathis, à vous écouter, côté, on s'est dit que l'AIPAC est tout puissant et peut influencer les élections comme bon lui semble.
Eh bien, pas tout à fait. Si l'AIPAC revendique 100% de victoire, c'est parce qu'il injecte de l'argent dans des districts où il y croit. Prenons l'exemple d'Ilan Omar, la cible privilégiée de l'AIPAC. C'est l'une des plus critiques envers Israël. En 2020, elle se présente et gagne dans le Minnesota. Face à elle, un candidat et les 2,5 millions de dollars de l'AIPAC. Depuis, le lobby a jeté l'éponge face à cette personnalité très appréciée. Elle vient aujourd'hui même d'être réélue. Même situation pour Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, représentante à New York, trop forte pour être délogée. Le lobby n'a même pas essayé. Cette année, elle a gagné les primaires avec 82%. Et puis pour contrecarrer l'influence de l'AIPAC, des lobbies juifs progressifs ont vu le jour depuis les années 2000 aux États-Unis. Parmi eux, G-Street ou encore If Not Now. Ils n'hésitent pas à parler d'apartheid, de génocide. Ils exigent un cessez-le-feu à Gaza et prônent une solution pacifique à deux États. Enfin, depuis quelques années, l'aile gauche des démocrates insuffle l'idée d'une réforme du financement des campagnes électorales. À sa tête, le sénateur Bernie Sanders. Après la défaite de la membre du squad Cori Bush, il s'est fendu d'un message sur X. Les milliardaires qui achètent des élections, ce ne sont pas ce que ce pays est censé être.
Merci Mathis Limano pour toutes ces explications.
RFI Midi.
Au Venezuela, les autorités continuent de monter le ton en cette période post-électorale. Après la répression des manifestations, l'arrestation de plusieurs dirigeants et militants politiques, le pouvoir s'attaque aux ONG et aux réseaux sociaux. Hier, les députés se sont réunis en urgence pour approuver rapidement une série de lois contre ceux qui promeuvent la violence et la haine sur le territoire national, selon les mots du président de l'Assemblée. La correspondance à Caracas d'Alice Campagnol.
La répression continue au Venezuela et elle s'organise désormais au Parlement. Juridique de la part de Nicolas Maduro et des membres de son parti. Le chef de l'État a demandé la célérité aux députés, tous acquis à sa cause, pour approuver une série de lois qui réguleraient les ONG et les réseaux sociaux. Pour le président de l'Assemblée, un proche de Nicolas Maduro, beaucoup d'organisations sont en réalité des façades pour des structures criminelles et terroristes. Il affirme ainsi vouloir protéger la population vénézuélienne des idées fascistes. Et c'est dans cet état d'esprit que le pouvoir a interdit l'accès aux réseau social X il y a quelques jours. La Commission interaméricaine des droits de l'homme a demandé à l'Assemblée de ne pas approuver les textes en question qui restreindraient, je cite, arbitrairement le droit d'association, la liberté d'expression et la participation publique dans un contexte de rétrécissement de l'espace civique. Le pouvoir vénézuélien veut faire taire les voix dissidentes. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Et plus de deux semaines après la présidentielle vénézuélienne, un rapport de l'ONU met en doute l'intégrité du traitement des résultats. Le scrutin n'a pas respecté des mesures élémentaires de transparence selon ce rapport. Le 28 juillet, le président Nicolas Maduro a été maintenu à son poste après une présidentielle contestée. Et depuis, le pouvoir commence à mettre en place des lois jugées liberticides par l'opposition. Certaines visent les réseaux sociaux et les ONG. Jorge Rodriguez, président de l'Assemblée nationale du Venezuela, fustige aussi les observateurs internationaux.
Je propose que nous réformions les lois électorales vénézuéliennes pour que plus jamais un étranger ne vienne prendre position sur quoi que ce soit en rapport avec les élections au Venezuela. Quelle différence entre cette fondation Carter, l'ONG fondée par le président Jimmy Carter qui observe les élections, et ces ordures payées par l'Agence américaine pour le développement international, qui sont parties aux États-Unis et qui, depuis les États-Unis, disent toutes les barbaries qu'elles peuvent imaginer, sans preuve, sans rien, parce qu'elles sont venues faire ce qu'elles sont venues faire, pour nuire, pour attaquer. Pourquoi doivent-elles venir? À quel titre? Quelle est leur légitimité?
Quel type de capacité?
Voilà, c'était Jorge Rodriguez, président de l'Assemblée nationale du Venezuela. Au Chili, les travailleurs de la plus grande mine de cuivre au monde ont entamé ce mardi une grève illimitée. Bonjour Justine Fontaine.
Bonjour.
Près de 5% de la production mondiale de cuivre vient de cette mine d'Escondida, située dans le désert d'Atacama, dans le nord du pays.
Et à l'échelle du Chili, qui est le premier producteur mondial de ce métal rouge essentiel pour la transition énergétique, c'est 1/5 de la production nationale. Autant dire que quand l'activité de cette mine s'arrête, l'économie chilienne tourne au ralenti. Le pouvoir de négociation des syndicats de la mine, qui appartient au géant anglo-australien BHP, est donc énorme. Florence.
Que demandent les mineurs chiliens ?
Eh bien, les travailleurs, plus de 2400 personnes, sont en train de renégocier leurs conventions collectives pour les années à venir. Dans les médias chiliens, les discussions bloquent sur une prime annuelle. Les représentants des salariés réclament l'équivalent de 1% des dividendes que se versent les investisseurs étrangers de la mine et que donc l'équivalent de 1% de ces dividendes soit distribué aux mineurs, soit plus de 35 000 dollars par tête. La direction refuse pour l'instant d'aller au-delà de 29 000 dollars.
Alors, qu'est-ce que cela représente pour le Chili ?
Alors, cette prime est trois fois plus élevée que ce que gagne sur une année la majorité des travailleurs chiliens, mais ces négociations reflètent surtout le poids du secteur minier dans le pays. En 2017, les mineurs d'Escondida étaient restés en grève pendant près d'un mois et demi, la plus longue grève de l'histoire minière du pays, au point de faire reculer le PIB du Chili, moins 1,3% cette année-là.
Merci Justine Fontaine.
RFI Midi.
Et c'est l'heure du journal des Outre-mer avec nos confrères d'Outre-mer La Première. Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour.
Et les effets du passage de la tempête tropicale Ernesto sont restés finalement assez limités en Guadeloupe.
Les trombes d'eau qui se sont abattues sur certaines communes ont causé quelques inondations et seront sans doute la cause, paradoxe bien connu en milieu tropical, de quelques coupures d'eau. Mais pour le reste, la situation est toujours restée sous contrôle, comme l'explique le secrétaire général de la préfecture de la Guadeloupe, Maurice Tibulle, au micro de La Première.
Constater qu'il y a eu à peu près entre 160 et 200 mm de pluie qui sont tombés en 24 heures sur le département de la Guadeloupe, des vents qui ont oscillé entre 70 et 100 km/h, parfois plus par rafale, ce qui a entraîné bien évidemment à la fois, je l'ai dit, des vagues submersions et qui ont entraîné quelques petits désagréments sur les routes qui ont été notamment en prévision de cet événement fermé. Il y a eu également en prévision des maraudes qui ont été demandées notamment à certaines associations pour mettre à l'abri les personnes qui auraient pu être ou se trouver en difficulté, notamment les personnes à la rue. À l'échelle de cette journée, c'est une vingtaine de personnes qui ont été mises à l'abri et une vingtaine d'interventions également de surcroît qui ont été faites par le SDIS pour intervenir auprès de personnes qui avaient été soit inondées dans leur appartement, soit qu'il avait fallu de dégager par exemple, des infirmières qui avaient été bloquées sur la route et qu'il a fallu mettre à l'abri sur la Grande Terre.
Située au sud de la Guadeloupe, la Martinique n'a subi pour sa part que quelques dégâts mineurs, surtout, et c'est logique, dans le nord du département. Quelques rafales de vent, quelques vagues spectaculaires et un sol bien arrosé. Reportage Christine Cupit.
La tempête Ernesto a épargné la Martinique. Pas d'inondation comme en Guadeloupe. Les rivières ne sont pas sorties de leur lit, même si les cumuls de pluie ont été relativement importants par endroits. Mais Ernesto a laissé tout de même quelques traces sur son passage dans le nord de l'île. Sur la route de la Trace, au Morne Rouge, des arbres n'ont pas résisté à la force du vent, ce qui a nécessité l'intervention des agents de la CTM.
C'est un arbre qui est tombé, qui faisait toute la chaussée. On l'a évacué, quoi, en fait.
Effectivement, il y a pas mal de bambous couchés sur la route, hein.
Oui, aussi. Donc on verra ça un peu plus tard, chaque chose en son temps.
Même situation sur la route d'Ajoupabouillon. Beaucoup de bambous couchés en travers de la route. Les automobilistes ont dû emprunter la voie inverse. Dans le Nord Caraïbe, au Prêcheur, Ernesto a causé plusieurs coulées de boue. Et là aussi, les agents de la CTM ont dû intervenir pour fluidifier la circulation. La tempête Ernesto continue de progresser vers le nord des Antilles, loin de la Martinique. Elle pourrait devenir un ouragan avant de frapper les Bermudes en fin de semaine.
Bon après-midi, à demain.
Merci Benoît Ferrand, on vous retrouve en effet à demain. Et tout de suite, le groupe guadeloupéen Maroun Amoni, dont le nom est inspiré par l'esprit des Neg Mawon, propose un nouveau voyage musical avec ce single, Nous pas fous.
Fais maman, papa pleurer, depuis ton fait l'année, fais pépon nous.
se quitte en musique. C'est la fin d'RFI Midi. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes d'RFI, à Benoît Almeras à la coordination. Restez sur la Radio du Monde. Dans un instant, les programmes de la Radio du Monde continuent avec le berceau de l'histoire.
Tout à l'heure sur RFI, c'est pas du vent.
Les tortues marines sont présentes dans l'océan depuis plus de 150 millions d'années, mais elles sont aujourd'hui vulnérables ou menacées de disparition à cause du braconnage et de la pollution. Heureusement, une législation internationale et des initiatives à travers le monde participent à leur préservation. Reportage à La Réunion au centre de soins Kélonia.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.